Bonjour et bienvenue à cette journée de pleine conscience à l'Institut Maison de pleine conscience de Montréal. Nous sommes le 2 décembre 2012. Je ne sais pas si vous croyez à la numérologie. Le 2 décembre 2012 peut être une date très propice à notre pratique de pleine conscience. Parce qu'elle comprend tous les chiffres que qu'on a sont des 1 et des 2. Et les 1, c'est il y a beaucoup d'enseignements qui sont reliés avec le numéro 1 et le numéro 2. Je me plais, je m'amuse des fois à regarder les chiffres des dates. Et très souvent, je trouve des significations amusantes. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est la première séance qui vous parvient de. Je vous rejoins de l'extérieur de Montréal. Je suis présentement à Beijing où j'ai passé 10 jours. C'était 10 jours très intéressants où j'ai pu très bien pratiquer. Je vous en parlerai un peu plus tard. Demain, je prends l'avion pour aller à Hong Kong et je serai avec les moines de l'Institut de bouddhisme appliqué d'Asie. C'est une très très belle place, c'est un très beau temple qui nous a été offert et il me fera plaisir, ben, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas connu, ça sera toute une expérience et il me fera plaisir de vous en parler le mois prochain. Donc, Beijing, c'est une très grande ville, 160 km du nord au sud, 163 km de l'est en ouest, 30 millions d'habitants. Très peu de personnes parlent anglais. Encore moins par le français. Et donc, ça me fait beaucoup pratiquer. Si vous vous souvenez, au début de l'année, lorsque nous avons commencé cette série de cours, on avait commencé avec les 7 facteurs d'éveil. Et lorsque j'avais parlé des 7 facteurs d'éveil, je vous avais parlé du contact entre les objets des sens, les sens et la conscience sensorielle, de ce qui nous parvient, de ce qui nous touche et qui très vite, dans l'espace de microsecondes, se transforme en idée, se transforme en émotion, en sensation, et qui nous font prendre action, ou qui nous font conclure, ou qui nous mettent dans des états soit très plaisants, soit moins plaisants. Et je vous avais invité à pratiquer, à observer les sensations d'inconfort qui peuvent survenir que vous pratiquez la méditation silencieuse chez vous. Que vous partez avec l'intention, la volonté, le désir de vous offrir une session de méditation silencieuse, calme et apaisante. Vous commencez, ça va bien, et votre voisin d'en bas commence à passer son aspirateur ou bien faire du bruit. C'est un bruit, et un bruit, lorsqu'il est en contact avec nos sens, nos oreilles, passe par notre conscience auditive et qui devient quelque chose qui devient une perception qui peut occasionner une sensation, dans ce cas, désagréable et qui amène toutes sortes d'idées. Et je vous avais mentionné comment, en observant ce phénomène qui peut être un phénomène peu significatif, un son peut nous apporter toute une série d'idées, de conclusions. Mais qu'en regardant ou bien qu'en étant capable de suivre cette évolution, de suivre cette chaîne de causalité, qu'on pouvait déceler un principe qui s'applique à tout ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas s'en apercevoir parce que ça se passe très rapidement et on n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. On est déjà soumis à toutes sortes d'émotions, des émotions qui peuvent devenir violentes et brutales et qui peuvent conduire à des excès de rage ou de colère ou même des suicides. Une émotion forte peut être déclenchée par n'importe quoi, par quelque chose qui peut être très peu significatif. Et cette émotion forte peut pousser à des actions aussi dramatiques ou critiques qu'un suicide ou un assassinat. Et cette investigation commence par la pleine conscience. La pleine conscience qui est notre pratique. Je voulais juste nous rappeler que nous sommes à notre 3e, 4e session de cette série et c'est une partie très importante, les trois sauts du Dharma. Lily va vous faire l'enseignement sur les trois sauts du Dharma. Je voulais juste être ici avec vous maintenant. Il est 11h30 de la nuit du soir et je voulais nous rappeler le cheminement que nous avons fait, qui a commencé avec notre étude de l'année dernière des quatre fondements de l'attention. Les quatre fondements de l'attention sont une pratique, la pratique qui nous permet de pouvoir être dans l'instant afin de pouvoir être pleinement conscient de ce qui est en train de se passer dans notre corps, avec nos sensations, nos émotions, nos perceptions, nos formations mentales, être au courant de tout ce qui est en train de se passer en nous et à l'intérieur de nous. Avec l'étude des quatre établissements à la pleine conscience, nous pouvons avoir les outils qu'il nous faut pour pouvoir être toujours conscient, présent, en contact avec tout ce qui est en train de se passer. Et cette pleine conscience que nous avons développée, que nous avons étudiée, que nous avons pratiquée, avec les quatre établissements à la pleine conscience, sont pour nous une façon de pouvoir pratiquer les sept facteurs d'éveil. Le premier facteur d'éveil, la pleine conscience. Le deuxième facteur d'éveil, l'investigation discriminante. Utiliser cette pleine conscience afin de pouvoir regarder ce qui est en train de se passer, afin de pouvoir comprendre. Comprendre que ceci est parce que cela est. Comprendre que rien ne se produit ou rien ne peut être sans que tout le reste soit. Essayer de comprendre la cause des choses. Et la pratique du bruit pendant une méditation, la pratique de regarder pour pouvoir voir comment, à partir d'une simple petite chose, comment est-ce que ça peut nous amener à des fausses idées, à des fausses perceptions, à des actions non désirées, non désirables. Essayer de comprendre ce phénomène et essayer de pouvoir l'appliquer à chaque situation dans notre vie de tous les jours. C'était les facteurs d'éveil. Les sept facteurs d'éveil que nous étudions avec les cinq obstacles, regardez surtout lorsque nous sommes attirés vers quelque chose. Lorsque nous sommes, c'est le contraire de attirer. Lorsque je parle du premier obstacle, l'attraction, le désir, la répulsion, qui sont des réactions qui commencent par des stimuli. Pour voir comment les choses-là arrivent. Et pourquoi est-ce que nous voulons faire ça? Cela parce que nous parlons de la souffrance. Nous parlons de la souffrance et des quatre nobles vérités. Cette souffrance qui se manifeste par ces sensations déplaisantes. Les quatre nobles vérités ont été aussi l'objet de notre journée de pleine conscience et de retraite. Alors donc, c'est pour vous inviter à écouter, à étudier et à pratiquer l'enseignement d'aujourd'hui, les trois sceaux du Dharma, non pas seulement comme des, et surtout pas comme des concepts à apprendre ou bien des connaissances à acquérir, mais comme des pratiques dans cette continuité des enseignements que nous faisons cette année. Et si vous pouvez les regarder aussi en fonction et en relation avec les enseignements qui ont été donnés durant la retraite de la Villa Saint-Martin le mois dernier. Comment toutes ces pratiques se relient et complètent ou forment ou font partie de notre programme d'études de l'année avec le Sutra du Diamant. La pratique que je suis en train de faire ou que j'ai commencé ou que je fais durant mon séjour ou que j'ai fait durant mon séjour à Beijing ont beaucoup porté sur les premiers deux phares d'éveil. Être au courant, être conscient, essayer d'être conscient des sensations qui me parviennent, essayer de me souvenir de des 12 liens de causalité. Et c'était difficile. C'était difficile de toujours se souvenir que je ne suis pas chez moi, que je suis dans un autre pays, qu'il y a d'autres coutumes, qu'il y a d'autres formes d'éducation, et que ce que je prends comme normes, comme standards, sont les miens, et que ça ne peut pas être appliqué, applicable, compris par les autres. Un exemple, et je le dis sans aucun jugement, les Chinois ne parlent pas, ils crient. Et lorsqu'on me crie après, je pense qu'on est fâché puis qu'on me gronde. Et donc, je ne suis pas très content. Et à chaque fois, je dois me souvenir, non, ils sont chinois et ils crient. Et c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de file d'attente. Tout le monde passe comme il peut, puis quand ils veulent, puis ils vous poussent. Mais ils vous poussent pas parce que c'est vous, ils ne le font pas exprès. Ils sont comme ça et ils font de cette façon-là. Alors je peux vous dire que j'ai commencé à faire la même chose, c'est-à-dire que je pousse le monde qui est en avant de moi pour aller là où je veux. J'espère que je me souviendrai lorsque je retournerai au Canada que ce n'est pas quelque chose que je peux faire au Canada. Mais ce sont quand même des comportements et des ajustements que je dois faire et que j'ai dû faire et que je me prends souvent à rigoler, à rire de moi. Lorsque quelqu'un me pousse et que je suis irrité et que je me surprends et que je me prends à être irrité, je me dis, hey, une chance que mes amis de pratique ne me voient pas parce que. Alors donc, c'est juste pour vous partager ces petites expériences de pratique que je fais et pour vous inviter aussi à considérer de voir comment dans notre vie, dans votre vie de tous les jours, s'il n'y a pas des occasions comme cela où vous pourrez aussi mettre cet enseignement en pratique. Donc les trois sauts du dharma, l'impermanence, le nirvana et l'inter-être par Lily. Je vais vous regarder, Lily. Je profite de l'occasion pour vous rappeler aussi une autre pratique que nous faisons. Dans notre pratique, on est toujours dans l'instant présent et donc on n'attend pas. Et si vous vous surprenez à être en train d'attendre, Si vous sentez une petite pointe d'irritation en vous avec la technologie, c'est une occasion pour vous de pratiquer de la même façon que je pratique avec les Chinois dans le métro ici. En tout cas, ils ont un très très beau métro et j'ai adoré l'expérience aussi.
Chers amis, les trois sauts du Dharma, c'est avec les quatre nobles vérités, la base de la pratique. En fait, chaque fois que nous parlons, nous disons c'est la base de la pratique. En fait, tout est la base de la pratique. La vraie base, c'est de vivre l'instant présent. C'est de revenir à ce que nous vivons maintenant et de voir comment est-ce que nous le vivons, dans quel état d'esprit, toujours regarder dans quel état d'esprit nous sommes. Et ça correspond à ce que Chen Hui a dit tout à l'heure, l'investigation des phénomènes. L'investigation des phénomènes, c'est quand on regarde au fur et à mesure de notre vie ce qui se passe. Alors, le corps, les sensations, les émotions, les pensées, lorsqu'on en parle, on les différencie. Mais dans notre vie de tous les jours, c'est tout lié. C'est interdépendant, c'est interrelié. Et il n'y a pas ça, c'est le corps, ça, c'est ça, c'est la sensation, ça, c'est l'émotion. Tout vient ensemble. Les sauts du Dharma, le saut, quand on découvre quelque chose, quand on définit quelque chose et quand on met un sceau, c'est quelque chose d'important. Une grande trouvaille ou un décret ou quelque chose. Mais parlant du Bouddha, on ne va certainement pas parler de décret. Le Bouddha a commencé d'abord par chercher les causes de la souffrance. Okay? Qu'est-ce qui cause la souffrance? Et il a cherché longtemps. Et après, ce qu'il trouvait le satisfaisait à demi. Et il a décidé de chercher en lui-même. Et ça, c'est important de le dire, que le dharma est en nous-mêmes. Et on a tous tendance, quand on commence à chercher une voie ou une meilleure façon de vivre, on va aller chercher ailleurs. Mais on cherche beaucoup et finalement, on s'aperçoit que c'est en nous-mêmes. Lorsqu'on entend quelqu'un parler et que ça nous plaît, c'est parce que ça éveille, ça rappelle quelque chose qui est en nous déjà. C'est déjà là. Et on dit, ah, je le savais, ou bien ça me plaît, c'est ça. Pourquoi on dit c'est ça? On dit c'est ça parce que c'est déjà là. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que d'abord on est ignorant, et ignorant pas dans le mauvais sens du mot. Ignorant tout simplement quand on ne sait pas quelque chose. Et aussi parce qu'on n'a pas tellement confiance en nous et en notre capacité d'éveil. On pense que l'éveil, c'est seulement pour le Bouddha, par exemple, ou pour Jésus, ou pour Moïse, des grands personnages, des grands êtres éveillés. Mais nous, est-ce qu'on est capable d'éveil? Et pourtant, oui, pour le Bouddha, on est capable. On est capable d'atteindre l'éveil. Comment? En regardant profondément. Alors c'est ce qu'il a fait. Il s'est assis et puis il a vu d'abord l'interdépendance des choses. Il a vu que tout est relié, que rien n'existe par soi-même, que rien n'a d'identité propre. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans la Prajnaparamita, dans la compréhension parfaite. Lorsque nous lisons la compréhension parfaite, on lit et on chante le vide. On entend parler du vide et ça nous fait peur. On dit, mais c'est quoi? Tout est vide. C'est pas ça. En fait, vide d'une identité propre, vide de quelque chose en particulier, mais plein de tout. Une chose existe parce qu'une autre chose existe. Et cette interdépendance-là fait que cette interconnexion, d'abord, une fois qu'on l'a décelée, une fois qu'on a compris le processus, ça nous soulage, ça nous rassure. Et on sait qu'il y a une cause à quelque chose. Lorsqu'on mène notre vie de façon folle, nous courons à droite, à gauche, toute la journée, nous sommes emportés, quelque chose arrive, quelqu'un dit quelque chose, une émotion, une irritation, ou comme ce que Chen Hui vit en Chine, des irritations. Ici, nous aussi, on en a beaucoup, des irritations. Mais lorsqu'on est emporté par la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Ou alors, on pense, ah, je suis en colère, je suis énervée. Mais on n'a pas le temps de penser qu'il y a quelque chose d'autre qui a causé cette chose. Et c'est ça la méditation, c'est ça la vie en pleine conscience. C'est de regarder et de prendre le temps aussi de voir qu'est-ce qui a causé cette irritation, cette réaction, cette émotion-là. Ça, c'est les quatre fondements de la pleine conscience. Les quatre fondements de la pleine conscience, c'est la grande méditation qui a été offerte par le Bouddha. Je m'assois et je regarde. Alors, il a donné une belle image, l'image des sacs de graines. C'est comme si on mettait devant nous des sacs de graines et qu'on commençait à égrener chaque graine devant nous en disant, ça, c'est mon corps. Et dans mon corps, alors on va plus loin. Ça, ce sont mes yeux, ça, ce sont mes mains, ce sont mes pieds, et les regarder profondément. Et une fois qu'on est, disons, dans les yeux, ça, ce sont mes yeux, j'en ai deux, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Qu'est-ce que je fais avec mes yeux? Est-ce que je les utilise bien? Que ferais-je sans eux? Qu'est-ce qui se passerait si on enlevait un œil ou deux yeux et qu'on les mettrait en dehors de mon corps? Quoi serviraient ces yeux? Ils ressembleraient juste à des billes. Alors ça va profond, profond, profondément. Et puis faire la même chose avec les sensations. Une sensation visuelle, une sensation olfactive, une sensation auditive, gustative. Ça va très loin. C'est la grande, grande, grande méditation. Et puis voir ensuite comment est-ce que les émotions apparaissent. Quelle sensation ou quelle action physique a créé cette émotion? Et puis il y a les pensées, bien sûr, l'esprit, tout ce que l'esprit forme. On appelle formation mentale parce que ça se forme. Ça se forme comme une fleur est formée de quelque chose. La pensée et la formation mentale aussi est formée de quelque chose. Donc il y a une cause. Donc, il y a une relation et il y a une source à ça. Cette source de l'interdépendance est aussi, se révèle aussi être impermanente. Alors, le Bouddha a vu que rien ne dure. Tout a une fin. Rien ne dure éternellement, à jamais. Nous avons un corps qui ne dure pas. Nous avons une durée de vie qui ne dure pas. Heureusement, le bon côté de la chose, c'est que nous voyons que pour les sensations et pour les émotions et pour les maladies aussi, ça ne dure pas. Alors savoir que ça va prendre fin, qu'une émotion apparaît. Rappelez-vous juste ce matin avant de venir, avant de prendre l'ascenseur, au réveil, hier, avant-hier, le mois dernier, comme c'est loin déjà, les émotions. L'année dernière, nous étions assis ici, en journée de pleine conscience. C'est déjà passé. Est-ce qu'on s'en rappelle? Des irritations ou des joies, même? Même les joies sont impermanentes. Les douleurs sont impermanentes. Lorsque le Bouddha a vu ces deux principes-là, fondamentaux, d'impermanence et d'interdépendance, il a dit, tout le monde peut atteindre l'éveil. Il a vu que la souffrance existe, là on passe aux quatre nobles vérités, parce que tout est interrelié. La souffrance existe, c'est indéniable. La maladie existe, la séparation existe, la mort existe, ça fait mal. L'attachement existe. Tout ça, ça fait mal. Mais il y a une cause. Je peux la trouver, cette cause. Est-ce que c'est mon hérédité, mes parents, mes ancêtres, ce que je mange, l'école, la famille, la rue, la société, la publicité. Tout ça me nourrit. Ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui me motive à agir? Quelle est mon énergie tous les jours, quotidienne? Tout ça, c'est la cause de ma souffrance ou de mes joies aussi. On ne peut pas parler tout le temps de souffrance. Il y a des joies. Mon bonheur, qu'est-ce qui crée mon bonheur? Qu'est-ce que je pense qui crée mon bonheur aussi? Peut-être que je me trompe. Je pense que ça, ça ferait mon bonheur. Peut-être que si je regardais profondément, un jour, il y a très longtemps, je me suis posé la question, parce que j'étais très insatisfaite. Ça, c'était avant de découvrir la pratique. Je me suis assise, j'ai pris un papier et j'ai écrit, qu'est-ce, pourquoi est-ce que je ne suis pas contente? C'est quoi cette insatisfaction-là? D'où vient-elle? Parfois, on est insatisfait et on ne sait pas pourquoi on est insatisfait. Ça, c'est le pire. On se réveille un matin, on n'est pas content. On ne sait pas pourquoi. Alors, et puis, j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que je veux être millionnaire? Est-ce que je voudrais être millionnaire? Non, je n'avais pas envie. Bien sûr, j'ai besoin d'argent. Mais courir après le million, non. Alors, c'est juste de déceler à notre tour ce qui fait notre bonheur, ce qu'on croit qui cause notre bonheur, ou ce qu'on pense vouloir, et peut-être qu'on ne le veut pas vraiment. Alors, à la deuxième cause, à la deuxième noble vérité, est liée la troisième. La troisième qui est la souffrance peut cesser. Ça, c'est la bonne nouvelle que le Bouddha a émise, et que Thich Nhat Hanh aussi. Quand il écrit, il dit, ça c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que ça peut cesser. Donc c'est en mon pouvoir de faire quelque chose pour améliorer ma vie, mes conditions de vie, pour acquérir plus de sérénité, être mieux avec moi-même. Et puis la quatrième noble vérité, c'est qu'il y a un chemin, il y a une voie pour voir comment ça peut cesser. Alors ce chemin, c'est de voir avec justesse, en me demandant, est-ce que tu es sûr de ce que tu penses? Est-ce que tu es sûr de ça? Se poser la question. C'est d'avoir une attention adéquate, juste. Est-ce que je fais attention? Est-ce que ma pleine conscience est là? Ou est-ce que je me perds dans l'oubli, dans la distraction? C'est d'avoir une action juste, qui est lié à une pensée juste. J'ai une bonne pensée, je vais avoir une bonne action. Une mauvaise pensée, je vais avoir une mauvaise action. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je prononce tous les jours? Quelles sont mes paroles? Quels sont mes mots? Ça, c'est la parole juste. Comment est-ce que je me concentre? Notre pratique de pleine conscience nous apprend à nous concentrer, à faire attention à chaque instant présent, à tout moment de la journée. C'est la concentration juste, c'est-à-dire pas se perdre dans une fausse concentration. Par exemple, un exemple du Bouddha qui dit, ça sert à rien d'appeler Bouddha, d'invoquer Bouddha 1000 fois par jour, et vous vous perdez dans cette évocation. Et qu'en est-il de votre pratique? Alors, on met l'effort dans un mauvais endroit. Il y a l'effort juste aussi. Et nos moyens d'existence juste. Comment est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que je fais pour que pour mener ma vie à bien. Alors, ce qu'on appelle les 8 sentiers octuples. Octuples, ben, disons, le 8 chemins, octuple c'est 8, pour nous aider à avoir les causes. Alors, tout ça, ça nous ramène toujours, grâce à l'interdépendance, qu'est-ce que je fais ? J'accepte l'impermanence. Tu peux me passer la montre, Monique ? J'accepte le principe d'interdépendance, qui est l'inter-être. Et à propos de l'inter-être, il ne faut pas oublier le non-soi. Une chose existe parce qu'une autre existe. Alors, ça veut dire que une chose ne peut pas venir comme ça, spontanément, de nulle part. Tout à coup, il y a une fleur. Ben non. Tout à coup, il y a un arbre. Tout à coup, il y a une personne. Non. La personne est là parce que des conditions sont là. La personne existe bien avant qu'on le sache. La fleur existe bien avant qu'on le sache. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. On est né avant de naître. On dit aux enfants, « Ah, comment est-ce que l'abeille, comment est-ce que comment est-ce qu'on explique la naissance aux enfants ? » On leur dit, « Deux abeilles se mettent ensemble. » Et puis on leur raconte l'histoire. Mais avant ça, il y avait déjà les graines. Les Chinois, ils ne comptent pas la naissance à partir du jour où on est né. Ils disent, en fait, c'est quand on a été conçu. Le Bouddha irait plus loin. Quand est-ce qu'on a été conçu ? Parce que finalement, si on vient voir, on est là depuis si longtemps déjà. On est là dans l'air, dans l'eau. On connaît l'histoire de la feuille d'automne. Il fait beau en été, les feuilles sont vertes, et puis l'automne arrive. Et les feuilles tombent. Mais avant de tomber, elles changent de couleur. Elles commencent à prendre toutes sortes de couleurs. Et puis, arrive le moment où le futur bourgeon du printemps, qui est là déjà, pousse la vieille feuille. Avant, je me demandais comment, pourquoi est-ce que les feuilles tombaient. C'est en expliquant aux enfants en deuxième année que j'ai compris. On apprend toujours, on apprend en enseignant, vous savez. Les mathématiques, je les ai comprises en les enseignant aux enfants de deuxième année. J'ai compris des tas de choses. Le cycle de l'eau, par exemple, aussi. Et ça, c'était merveilleux. Alors, le petit bourgeon qui pousse la vieille feuille, ça veut dire que le bourgeon du printemps est déjà là. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, quand je vois l'érable dans mon jardin, je ne dis pas, il est mort, oh, c'est tout triste. Il n'y a plus rien. Je le vois. D'abord, il suffit de prendre des jumelles pour voir les bourgeons. Ils sont juste là. Ils sont gros. Et les écureuils, ils les mangent d'ailleurs. Ça veut dire que le printemps est déjà là. Mais la feuille d'automne, où est-ce qu'elle est passée ? La feuille d'automne s'est envolée ou elle tombe à terre. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler ici un soir de méditation. C'est grâce à mon jardin aussi que j'ai compris beaucoup de choses et que je suis rassurée face à la vie et à la continuation de la vie. La vie continue. Parce que je vois les feuilles d'automne tomber dans mon bassin. J'ai un petit bassin d'eau avec des poissons et des lotus. Et au début, quand je dis au début, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, j'étais pas très contente de voir le bassin rempli de feuilles d'automne. Parce que c'est un travail fou pour le nettoyer. Alors, chaque printemps, il faut vider le bassin. C'est quand même un bassin grand de 3 mètres, c'est beaucoup. Il faut tout vider et ramasser toutes ces feuilles. Ben, on pourrait... Attendez, il y a un processus aussi dans mes découvertes. Au début, je voulais que le bassin soit impeccable. Alors, j'enlevais tout à la main. J'enlevais les feuilles. Certaines feuilles étaient encore un peu dures, mais d'autres étaient devenues compost. Et année après année, je me suis dit, c'est bon ça. C'est du bon compost. Pourquoi est-ce que je l'enlève ? Dans mon bassin, j'ai des poissons japonais aussi, des koi, et il survivait hiver après hiver. Et je me suis rendu compte que les feuilles protégeaient les poissons, parce qu'ils se nichaient dedans. Et le bassin est profond, comme à peu près un mètre, alors ça gèle à un pied à peu près, mais en bas, c'est tout liquide encore, l'eau n'est pas gelée. Alors les poissons vivaient là, et ils étaient protégés par les feuilles mortes. Alors maintenant, je n'enlève plus les feuilles, je les laisse. Ça leur fait une protection, et peut-être que ça les nourrit aussi. Mais les poissons dorment en hiver, alors ils ne s'occupent pas tellement de manger. Donc ça, c'est aussi une découverte que j'ai vue. Et les feuilles qui deviennent compost. Il y a un cycle de l'eau, l'eau qui circule. Cette eau qui passe par le ruisseau, qui laisse les feuilles qui laissent des détritus dans le ruisseau, tout petit, tout petit. Où est-ce que ça s'en va? Je me suis rendu compte que ça se mêlait à la terre environnante, et ça s'évaporait aussi. Alors cette feuille d'automne s'est évaporée. Un peu de cette feuille s'est évaporée. Et puis, je ne sais pas où, dans le ciel, dans un nuage. Et le vent pousse les nuages. Et le nuage va peut-être arriver en Chine, va peut-être tomber au Japon, en pluie, en neige. Alors les nuages ne sont pas juste montréalais, ils vont partout. Et cette feuille d'automne, elle se balade partout, et c'est ça. Alors, ça, c'est la continuité. Et il en va de même pour nous. Nous ne sommes pas différents. Une fois décédés, pareil. Vous croyez qu'on reste juste là, comme ça, à ne plus bouger? Alors, ça peut paraître lugubre, mais non. Si on le voit avec des yeux différents, si on les voit avec les yeux de la vision profonde que le Bouddha veut nous enseigner, que Thich Nhat Hanh nous parle tout le temps, la vision profonde, de regarder les choses telles qu'elles sont, vraiment, et la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors, le fait de penser qu'on n'a pas un soi individuel et qu'on inter-est avec tout le monde, c'est rassurant. Même si on ne le voit pas, est-ce que j'ai quelque chose avec Richard? On pourrait le dire que non, regardez mes cheveux, regardez les siens. On est tellement ensemble, tellement différents. Et pourtant, il est un homme, je suis une femme. Mais en regardant profondément, loin, 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 on respire le même air. On va boire la même eau, même si on pense que non. Mais vous savez que l'eau que buvaient les dinosaures, c'est l'eau que nous buvons aujourd'hui aussi. C'est toujours la même mot. Imaginez un peu la planète et puis tout ce qu'il y a autour. Et l'air, où commence l'air? Où va l'air? C'est tellement vaste. Alors il n'y a pas d'identité propre. On est tous interconnectés. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de savoir que tout est impermanent et tout est interdépendant? Est-ce que ça a un rapport avec notre pratique de tous les jours? Est-ce que ça a un rapport avec notre vie quotidienne? Thich Nhat Hanh et Bouddha et Chen Hui et tous nos maîtres nous disent que si on prend ces principes juste comme des théories et qu'on ne les utilise pas dans notre pratique quotidienne et qu'on ne les utilise pas pour améliorer notre vie, pour soulager notre peine, pour nous rendre meilleurs, pour alléger notre quotidien, si on en fait comme des principes, là, bien, on les lit dans les livres, on a plein de livres, on les lit, on est content, on les retrouve, ah, ça c'est beau. Mais si on ne les utilise pas, une fois après avoir lu, je ferme le livre, j'ai lu les trois sceaux du Dharma. Attendez, je n'ai pas encore parlé du troisième, le meilleur. Je ferme mon livre et puis quelqu'un arrive, m'énerve et une déception, et je recommence. Le stress, le travail. J'ai laissé le livre sur l'impermanence sur ma table de chevet. J'ai laissé l'interdépendance à côté de mon téléphone. Et là, je retourne au bureau, je retourne dans la rue, je suis emportée par le flot et je suis stressée. Et ma vie continue ainsi. Le stress tous les jours, et tout ce que je lis, ça ne me sert à rien. Mais à quoi ça sert? Et on arrive au nirvana. Alors le nirvana, c'est un beau mot. C'est un mot magnifique. Quand on n'en sait pas beaucoup sur le nirvana, on pense, comme on a eu tous, je pense, une éducation judéo-chrétienne, le paradis. Quand on va mourir, on va aller au paradis. On va atteindre le paradis. Seulement quand on va mourir. Mais d'après les enseignements bouddhistes, et on découvre que le nirvana, c'est pas ça du tout. Le paradis peut être juste là, tout de suite. Le paradis, c'est l'instant présent. Je suis assise maintenant, je ne pense pas du tout aux choses qui peuvent alourdir mon quotidien. Et encore, comment est-ce qu'elles peuvent l'alourdir? Elles l'alourdissent peut-être parce que je ne les vois pas bien, parce que je les considère comme des lourdeurs. Et ça veut dire que c'est dans ma tête. Ça veut dire que j'ai des formations mentales. Ça veut dire que j'ai des fausses perceptions, des conceptions, des énergies d'habitude. Tout ce avec quoi je suis née, tout ce dont j'hérite, s'ancre et s'incruste. Quand on va sur la plage, on voit des... Je ne sais pas si vous avez certainement joué avec le sable mouillé, mais pas trop mouillé, assez mouillé pour le prendre et faire laisser glisser entre vos mains et puis voir qu'il s'accumule. Faire des petites boules de sable qui s'accumulent. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau et il ne faut pas qu'il soit trop sec. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Ou prendre du sable et puis faire comme ça et puis faire des petites montagnes de sable. C'est l'accumulation. Et aussi de voir sur la plage les coquillages ou les rochers qui sont grugés par l'océan. À la longue, les vagues frappent le rocher et certains sont escarpés, d'autres sont doux. Il y a des trous, des creux. Ça, c'est l'usage du temps. C'est le temps qui fait ça. Et il fait la même chose avec nous. Tout ce qu'on entend, ce que nos parents nous ont dit, ce que nos professeurs nous ont dit à l'école, à la maternelle, ce que nos enseignants, ce que notre sangha, les gens avec lesquels nous pratiquons. Et ce n'est pas fini. C'est pas ok, ça c'est comme ça, mais dès que demain il y en aura d'autres, et encore après-demain, et encore après-demain. Et ça c'est l'impermanence, ça c'est l'imprévu de la vie. Chaque jour, quelque chose. Chaque jour, une nouvelle perception, une nouvelle découverte, ou une ancienne. Et moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais de l'un à l'autre, je suis ballottée, mon humeur change. Un jour je suis bien, un jour je ne suis pas bien. C'est variable, c'est volatile. Jusqu'à ce que je découvre la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est l'arrêt. Ça commence par l'arrêt. Pas seulement l'arrêt assis, comme ça, mais c'est arrêt, arrêt mental. Arrêt des pensées qui vont et viennent comme des folles. C'est de s'asseoir. Disons que je fais... que je pratique, que je fasse l'arrêt assis. Je m'assois, je respire. Pourquoi est-ce que je respire? Parce que la respiration est là. C'est elle qui va apporter le calme dans mon corps. C'est la respiration qui va, une fois que j'ai fait un jogging ou une fois que j'ai couru après l'autobus ou après mon enfant qui se sauve de peur qu'il ne tombe dans l'eau, que mon cœur bat vite, que ma respiration est haletante, peut-être à cause d'une peur, d'une colère, j'arrête. J'utilise la respiration et je me calme. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et je vois que mon cœur commence à ralentir. Je me sens mieux déjà. Je suis apaisée. C'est magique. La respiration me calme. Une fois que je suis calmée, j'ai conscience de la respiration et j'ai conscience de mon corps arrêté. Et là, je prends conscience de mes sensations. Est-ce que j'ai mal au genou? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que le bruit de la ventilation me dérange? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mes sensations qui entrent par les 6 fenêtres des sens. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le toucher, l'esprit. L'esprit est un sens aussi. Les pensées m'affectent ou ne m'affectent pas. J'arrête, je regarde tout ça et j'observe. Je peux observer parce que je suis calme. Je ne peux pas observer dans un moment de colère ou de grande émotion. Je ne peux pas observer quand je cours dans le métro ou à la veille de Noël que j'entre dans les magasins et que tout le monde se bouscule. C'est certainement pas le moment de voir que, ah oui, ben c'est ça, hein, j'ai hérité de ça et ça et ça. Non, là, c'est pas le moment. On ne peut pas le faire. À moins de s'arrêter en plein milieu de tout le monde et de faire une méditation au beau milieu de la rue Sainte-Catherine ou la baie ou n'importe où, s'arrêter et regarder. C'est possible, on pourrait le faire. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle, debout? C'est possible. Alors, pour observer, il faut s'arrêter. Et une fois qu'on a observé, on comprend des choses, on les distingue, on voit que c'est faux, que c'est pas faux. Après tout, j'ai peut-être exagéré, c'est moi qui me trompe, c'est moi qui n'aurais pas dû dire ça, penser ça, faire ça, décider ça. Je comprends. Si je suis engagée dans une voie de transformation, alors je vois comment je peux le transformer. On connaît tous l'image du lac. Le lac, tellement beau quand il est apaisé, il en est comme un miroir. Quand le lac est miroir, il reflète la montagne dans sa forme parfaite. Il reflète l'arbre tel qu'il est. Si c'est un pommier tout tordu, il va refléter le pommier tout tordu. Si c'est un saule pleureur, on va voir le saule pleureur avec ses belles branches qui pendent. Et si c'est la nuit, un lac romantique, on va voir la lune telle qu'elle est. On va la voir ronde ou à demi. On va la voir cachée par un nuage ou tout à coup apparaître. Ça, c'est l'eau du lac, calme et tranquille. Quand il est agité par des vagues, un bateau passe, dérange ce calme, perturbe tout. Ah, tout est déformé. Le bateau lui-même est déformé. Mon visage est déformé si je me regarde dans l'eau. Je suis zigzag. Alors, s'arrêter pour mieux comprendre, ça c'est la pleine conscience. La pleine conscience, pas seulement en soirée de méditation. La particularité de l'enseignement du Bouddha et de Thich Nhat Hanh qui nous attire, c'est parce que cette particularité-là concerne notre quotidien. Elle est accessible. C'est là. On n'a pas besoin d'aller s'enfermer dans un monastère. On n'a pas besoin d'aller en Thaïlande ou en Malaisie pour faire des retraites de 30 jours, ne voir personne. Ça peut aider, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais la pleine conscience, elle est accessible là. Une fois que je vois, que j'accepte que rien ne naît, que rien ne meurt, qu'il n'y a pas d'avant, qu'il n'y a pas d'après, qu'il n'y a pas de moche et de pas moche, qu'il n'y a pas de sale ou de propre, que tout est dans notre tête. On ne le savait pas avant. Maintenant, on le sait. On appelle ça les 8 négations. On a une belle chanson. On pourra la chanter cet après-midi. Sans venir, sans partir. ni avant, ni après. Je te tiens près de moi et te laisse pour être libre, parce que je suis en toi et tu es en moi. Ça, c'est la vision profonde. Par l'air, par l'eau, par la terre, par le feu, on est tous interreliés. Je te laisse pour être libre. Pourquoi ? Parce que j'accepte l'impermanence. Parce que j'accepte qu'un jour tu vas être là, demain tu ne vas pas être là. Quand on est petit, on pense que nos parents sont immortels, que nos grands-parents sont immortels. Pour moi, mes grands-parents, immuables, des rocs. Le jour où j'ai connu mon premier décès, c'était par mon grand-père. Et j'étais tellement ébranlée. Et puis, j'ai découvert la pratique de pleine conscience. Et lorsque papa est mort, j'étais un peu plus prête à l'accepter. J'étais près de lui et je lui rappelais les belles choses. Je lui rappelais quand on allait à la plage, tous les dimanches. Je lui rappelais les chansons qu'il aimait, les valses. Ah, le petit vin blanc. La semaine prochaine, ça va être l'anniversaire de sa mort, le 10. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup de peine, beaucoup. Mais j'avais déjà cette pratique pour me soutenir, pour m'aider, pour accepter de le voir partir. Et grâce à la feuille d'automne et grâce à mon jardin, j'ai pu voir papa dans la feuille d'automne. Et lorsque nous étions assis à la maison avec maman et mes frères, mes sœurs et tout le monde, j'avais apporté mes couleurs, mes crayons, mes papiers. Et dans des moments de détente comme ça, je dessinais à maman et je lui racontais l'histoire de la feuille d'automne. Avec des dessins, c'était plus agréable. Et ça l'a apaisé. Alors, qu'est-ce que c'est le nirvana ? Le nirvana, c'est de savoir qu'on a des notions erronées, qu'on pense pas tellement juste, que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, que les choses n'apparaissent pas comme par magie. Si on regardait profondément, si on pouvait voir la non-discrimination, si on pouvait vraiment prendre le temps de s'arrêter, de le regarder, il n'y aurait pas de guerre. Il y en a des guerres. Parce que chacun pense qu'il est le seul là, que c'est à lui, que c'est sa place, qu'il a raison. Que lui, il est beau, que l'autre n'est pas beau. Faut juste penser à la Deuxième Guerre mondiale. La race aryenne est la meilleure. Et parce qu'on croit qu'il faut être beau, blond, grand, aryen, alors tous les autres sont à éliminer. Et on élimine, et on tue, et on brûle. On passe au four. Des millions de personnes, des juifs, des gitans, des homosexuels, des personnes qui s'opposent au régime. Tout ça parce qu'ils n'appartiennent pas à une race particulière. Thich Nhat Hanh aime bien donner l'exemple des deux mains. Lorsqu'humain attrape un clou et que l'autre attrape le marteau et veut taper sur le clou pour accrocher un cadre où, si la main droite, par mégarde, tape sur le doigt au lieu de taper sur le clou, est-ce que la main gauche va commencer à engueuler la main droite et lui dire « Hé, regarde un peu ce que tu fais, tu me fais mal ». Est-ce que les deux mains se bagarrent? Nos deux mains, notre corps, nos deux pieds. Lorsqu'on a un pied handicapé et qu'on est sur une chaise roulante, est-ce que le pied droit dit au pied gauche « Voyons donc, je ne peux plus marcher ?» Comment ça se fait que tu sois paralysé comme ça? Avance. Est-ce que le pied gauche est jaloux du pied droit? En lui disant, moi je suis paralysé et toi tu peux encore marcher. Un même corps, deux pieds, deux mains, deux yeux, interreliés, sans discrimination. Mais avec les êtres humains, c'est pas pareil. Et pourtant, si on remonte loin, 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 ou alors si on fait une vision bien, 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 bien profonde, et qu'on voit qu'on est tous reliés, interreliés, qu'on a une même conscience, qu'on fait partie d'un tout, si on le regarde comme ça, et ça c'est la physique, c'est pas juste Bouddha, c'est la physique. Si on lit Mathieu Ricard je ne me rappelle plus le nom du Vietnamien qui est physicien aussi, le monde dans une graine de moutarde, c'est pas sorcier, il faut juste le regarder comme ça. Alors, on a de la chance, nous, venir nous réunir dans une petite salle et penser comme ça, et pratiquer comme ça. Et c'est accessible à tout le monde. On garde nos religions, on garde nos hérédités, on ne demande à personne de changer d'identité, d'appartenir à... Non. Personne qui vient ici retourne chez elle à la fin de la soirée et retrouve leur milieu. Bientôt, ça va être Noël. Parce que vous entendez cet enseignement aujourd'hui, les trois sauts du Dharma, est-ce que ça va vous empêcher de fêter Noël? Non. Bientôt, ça va être Hanouka, la fête des Lumières, des Juifs. Ça ne va pas m'empêcher d'allumer les 8 bougies. Au contraire, Thich Nhat Hanh dit que apprendre à vivre en pleine conscience, et il ne dit même pas apprendre à vivre de façon bouddhiste, attention, il dit apprendre à vivre en pleine conscience. La pleine conscience est universelle, elle est accessible à tout le monde. Quand on apprend à vivre en pleine conscience, au contraire, on fait la paix avec nos racines. On accepte mieux nos racines, on accepte mieux la façon dont on a été élevé. Parce que dans le parcours, il y a beaucoup de personnes qui rejettent leur religion, qui n'aiment pas la façon dont leurs parents les ont élevés, et qui se révoltent, et qui vont chercher ailleurs. Eh bien, ce qu'on va chercher ailleurs, et ce qu'on trouve ici en tout cas, ce n'est pas une nouvelle religion, encore moins une secte, comme Gilles pensait quand il est arrivé le premier jour. Sa première discussion du Dharma, son premier partage, et je ne l'oublie pas, il a dit... me pose la question, est-ce que c'est une secte ou... Et moi, je dis, oh, moi j'avais mal au dos. J'ai dit, non, non, pas de secte, on n'est pas une secte. On n'est pas une secte. Non. Vous allez sortir de là pour voir, vous pouvez partir. On sera bien content que vous reveniez, mais... Non, c'est pas une secte. Alors, grâce à la pleine conscience et grâce à un regard profond sur les choses... On voit l'origine, on peut peut-être voir l'origine des autres religions, des autres croyances et de voir qu'elles sont tellement similaires finalement. La paix, c'est pour tout le monde. Mais c'est pas comme ça, c'est pas interprété comme ça dans la vie courante. C'est pas interprété comme ça. Il y a trop de guerre, il y a trop d'ignorance. L'ignorance, c'est d'être obtus, d'avoir des œillères. Les chevaux, quand on ne veut pas qu'ils aient peur des abeilles ou des grosses mouches, on leur met des œillères. Alors ils ne voient que devant. Et ils avancent en voyant que devant. Alors, vous connaissez l'histoire du cavalier qui chevauche, qui est sur son cheval et qui va très vite, à une allure folle. Et il va, il vient, il va, il vient, il court comme un fou sur son cheval. Et quelqu'un lui demande, en hélant comme ça, « Où est-ce que tu vas ?» Comme ça. Et le cavalier, en courant, dit, « Je ne sais pas, demande à mon cheval. » C'est une histoire bien connue, mais qui décrit, qui illustre bien la façon dont nous vivons quand on ne connaît pas la pleine conscience. C'est ça le stress. Aujourd'hui, mindfulness, stress reduction, c'est très à la mode. Ça pousse comme des champignons, les ateliers, les séminaires, parce que tout le monde cherche une façon de se déstresser. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus être stressée? Alors, nous, ici, on a la chance, on connaît la réponse, j'espère. On connaît la réponse. Arrêter, vivre l'instant présent, vivre ce qui est là, maintenant. Je suis assise, je suis assise. Aujourd'hui, c'est une journée de pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, une journée de pleine conscience? C'est une journée où on va pratiquer, où on va apprendre l'art de vivre en pleine conscience à tout moment de la journée. Bien sûr, c'est un condensé. Dans une maison, on a des vaisselles à faire, on a des machines, du linge à laver, on a du repassage, de la nourriture à faire, on a toutes sortes de choses à faire. Et à l'ordinateur. Ici, une journée de pleine conscience, c'est la pratique de la pleine conscience assis, debout. Tout à l'heure, on va faire une méditation marcher dans la rue. On va apprendre à manger en pleine conscience. On va avoir un repas en silence pendant 15 minutes. Mais même le reste, on ne parle pas. Mais pourquoi en pleine conscience? Parce que quand on regarde ce qu'on mange, d'abord on mange mieux, on mange moins vite. Au monastère du village des Pruniers, ils apprennent à mâcher 56 fois chaque bouchée, de façon à ce qu'elle soit très liquide et qu'elle passe mieux. On apprend à voir l'origine de la nourriture. On voit l'inter-être. Je montre, parce que derrière il y a un grand tableau qui écrit inter-être. L'inter-être dans la nourriture. D'où vient cette pomme? D'où vient ce pain? Qui l'a fait? Est-ce que j'ai de la gratitude? Est-ce que je suis reconnaissante? Et alors on va faire la pratique de la pleine conscience aussi dans les échanges. On va se mettre en rond et on va échanger sur les enseignements. On va échanger sur les trois sauts du Dharma. On va échanger sur notre pratique quotidienne, sur comment est-ce qu'on adapte la pleine conscience dans notre quotidien. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que je suis toujours stressée, angoissée? Est-ce que ma vie s'est améliorée? Est-ce que la pleine conscience m'aide quotidiennement? Est-ce que le fait de savoir que tout est impermanent et interdépendant m'aide à me débarrasser des fausses notions et m'aide à vivre le nirvana maintenant? Maintenant, maintenant? Être dans le nirvana maintenant? Être bien? Quand on est assis en méditation et que tout à coup on est bien et qu'on a une posture stable et que notre respiration passe bien, on n'est pas très enrhumé, on n'est pas bouché, on est bien et qu'on est juste ici et maintenant. On n'est pas emporté, on rumine pas le passé, on s'angoisse pas sur le futur, on est juste là. Donc ça veut dire qu'on est libre. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Libre dans les pensées. On a un sutra qui dit « apprendre à vivre seul ». Il faut apprendre à vivre seul. Mais quoi? C'est quoi seul? C'est pas seul dans une maison. C'est apprendre à vivre seul, loin des perceptions erronées. Débarrasser de nos ruminations. Débarrasser de nos futures angoisses qu'on rend déjà présentes. Le futur n'est même pas là, mais on en a déjà fait une angoisse. Le passé est fini. L'année dernière est passée. Hier soir est passée. 10 heures du matin est passée. Les problèmes techniques sont passés. Le Chenhui de 10 heures n'est plus le Chenhui de maintenant. Peut-être qu'il dort, il n'est pas là. Non, il dort. C'est passé. Demain, il va à Hong Kong, mais ce n'est pas encore là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est juste là dans l'instant présent. Alors donc, on est libre, on est tranquille. Et c'est notre choix de faire durer cet instant, ce nirvana, maintenant. Comment? Juste en revenant à la respiration. Une pensée arrive, nous accapare. Je respire. On a des cloches pour cela. On a la grosse cloche ici. On a un téléphone à la maison qui va sonner, qui va nous ramener à notre instant, là, maintenant. On a des ascenseurs qui, quand ils arrivent, cling, ah, c'est une cloche. Est-ce que je suis en train de vivre l'instant présent? Thich Nhat Hanh appelle ça le rendez-vous avec la vie. Est-ce qu'on manque notre rendez-vous avec la vie? Tous les jours, est-ce qu'on a raté notre rendez-vous? Si on est perdu dans nos pensées, oui, on a raté notre rendez-vous. On n'est pas là. Alors vivre heureux, ici et maintenant, savoir que je peux le faire, que c'est dans mes mains, apprécier tout ce qu'il y a en moi. L'année dernière, j'ai souffert d'une hernie discale. En ce moment, je suis bien, je bouge un peu, mais ça va. Je peux rester assise, ce que je ne pouvais pas faire l'année dernière. L'année passée est passée. Maintenant, je suis bien, j'apprécie. Le soir, avant de dormir, on a une pratique des 5 gratitudes. Juste prendre une minute et un papier et dire « qu'est-ce qui m'est arrivé de bien aujourd'hui ?» On va peut-être encore se tromper parce que peut-être qu'on va penser que ce qui me fait du bien, c'est quelque chose de très grand. Je veux aller en Floride. Est-ce que j'ai été en Floride aujourd'hui? Non. Oh, alors non, alors je ne suis pas bien. Ce n'est pas une gratitude. Mais on va revenir ici et maintenant et on va penser, est-ce que mes deux yeux m'ont fait voir aujourd'hui la belle petite neige? Est-ce que j'ai pu manger sans que quelqu'un me donne à manger? Est-ce que j'ai pu aller enjamber la baignoire sans l'aide de quelqu'un? Est-ce que j'ai pu venir sans chaise roulante? Ce sont des gratitudes à notre portée. Tellement facile, mais tellement loin quand on est stressé, quand on n'est pas présent, quand on est perdu dans le présent. On peut se perdre dans le présent aussi. On peut se laisser emporter par ce qu'on fait. On est complètement obnubilé et on est perdu. Alors c'est ça le nirvana. Quand on l'écrit au tableau, on écrit 3 choses, c'est bien distinct. Impermanence, inter-être, tirer, nirvana, comme si c'était 3 choses. Ça, c'est les cartésiens, toc, toc, toc. Mais c'est une seule chose, c'est la même chose. Ceci est parce que cela est, et ceci n'est pas parce que cela n'est pas, et ceci est ainsi parce que cela est ainsi. Alors, ne pas en faire des concepts et ne pas rester, ne pas dire « Ah, je vais aller à la maison et je vais pratiquer ». Impermanence, l'inter-être, le non-soi, je n'ai pas de moi, de soi particulier, et je vais vivre le nirvana. Mais non, c'est tout ça en même temps. La journée n'est pas faite de tiroirs. Nous, on en fait des tiroirs. On a des calendriers, on a des carreaux, et on écrit. Hier, j'ai écrit sur mon frigidaire, calendrier de décembre. J'ai effacé celui de novembre, et en effaçant, j'ai effacé l'anniversaire de mon fils, j'ai effacé la retraite à la Villa Saint-Martin, et j'étais consciente. J'efface novembre 2012. C'est parti. David, mon fils, est né le 3 novembre. Parti. Jusqu'au prochain. Et j'ai commencé à écrire le calendrier de décembre. 1, 2, journée de pleine conscience. 3, 4, 5, anniversaire de 8, journée de pleine conscience en anglais. 9, 10, 11, 12, les anniversaires. Chaque fois qu'il y a un anniversaire, un petit cœur. Papa, les fêtes, Noël, méditation, décembre. Alors, j'avais écrit 1 et après j'étais à 31 déjà. Et j'étais déjà dans le 31. Et je me suis rendu compte, j'avais déjà des pensées du 31. Est-ce que mon fils de New York va venir? Ah, tu es déjà dans le futur. 1. Et je remonte à 1. Ça, c'est l'instant présent. Et même dans l'instant présent, et même dans le 1, il y a petit, 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 1, 1, 1, 1, 1. Chaque minute. Mais 1, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le 2. Et le 2 n'est pas fini. Il a commencé. On va enlever la fiche du 2 au bureau et on va mettre la fiche de janvier, journée de pleine conscience, en janvier. On peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre. On doit gérer. On a un local, un institut à gérer. On a des choses à faire. Il faut organiser. Il faut faire notre calendrier. C'est ça la vie. C'est ça notre vie. Mais on a notre pleine conscience avec nous pour nous alléger et pour nous faire et pour nous permettre de le faire de façon légère, de façon agréable, sans angoisse, et ne pas penser « Oh, le 25, j'ai tellement de monde à recevoir, est-ce que je dois faire à souper ?» Ça devient une angoisse alors que c'est un plaisir. Une chose à la fois, ce n'est pas encore là. Et maintenant, qu'est-ce qui est là maintenant? Il y a juste maintenant, il y a juste là, 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 maintenant. Moins 10. C'est juste ça. Comme midi, il n'est même pas là encore. Ça, c'est l'instant présent. Notre tête ne nous permet pas de faire ça. La tête anticipe. Qu'est-ce que j'ai à faire cet après-midi? Et maintenant, et maintenant, et maintenant. Mes petits élèves, en deuxième année, ils étaient tous agglutinés là autour de mon pupitre. Et il y en avait des forts et d'autres moins forts. Et je distribuais les travaux. Et pour le plus fort, c'était très facile. Ils le regardaient comme ça, ils disaient, et après, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, attends, va le faire. Quand tu auras fini, reviens me voir. Je te donnerai l'autre. Mais maintenant, c'est maintenant. Et aux enfants de deuxième année, c'était très facile de leur enseigner à vivre en pleine conscience. C'était des auditeurs fantastiques, même si les enfants sont agités. Mais quand on jouait à la pleine conscience et quand on passait la petite cloche et que la petite cloche circulait de main en main, d'enfant à enfant, ils savaient qu'est-ce que c'était l'instant présent. Ils savaient que quand ils allaient sonner la cloche, ils arrêtaient, ils respiraient. Et le monde s'arrêtait là. Et qu'ils allaient passer la cloche à quelqu'un d'autre. Et c'était ça. Alors nous, les adultes, on peut faire la même chose aussi. On ne se passe pas la cloche de main en main, quoi qu'on pourrait le faire. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On va le faire aujourd'hui. Mais oui, mais bon Dieu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et à chaque cloche, s'arrêter. On le fait en retraite, mais pas de main en main. Et pas. C'est comme une fois de temps en temps. On essaye de respecter le noble silence. Quelqu'un va inviter la cloche. Reviens au noble silence. Pendant une journée de pleine conscience, on pratique le noble silence. Le noble silence, pourquoi faire? Ben, c'est pour mieux pratiquer. Pour regarder, pour s'arrêter. Arrêter la bouche, c'est l'arrêt. Arrêter et regarder, observer. Comment est-ce que je marche? Est-ce que je cours? Est-ce que j'ai hâte d'aller prendre mon sac à linge? Est-ce que j'ai hâte d'aller m'asseoir? Est-ce que j'ai hâte de? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai hâte d'avoir hâte? Alors, tout faire consciemment, posément, souverainement. Parce que quand on marche en pleine conscience, on est souverain. Quand on court, on est comme victime, on est comme emporté par. On n'est pas nous. Alors fais tout. La souveraineté à tout moment de la journée. Au bureau, au travail, à l'école, à l'hôpital, à la banque. J'attends. Au feu rouge, 2 minutes. J'attends. Le feu vert arrive, mais il y a un piéton qui est encore lent. Est-ce que je lui rentre dedans? Non. J'attends. Et je respire. Ce n'est pas que j'attends en disant « Oh, j'attends et je suis en train d'attendre. » Mais non. C'est de ne plus savoir qu'on est en train d'attendre. De ne plus penser « J'attends et je suis en train d'attendre. » Je suis en train de pratiquer la pleine conscience. Non. C'est juste que ça devienne tout à fait naturel. Juste par une respiration.